RMC, 100% Bachelot, Roselyne Bachelot.
On est bien sur RMC. Si vous saviez comme on est au frais dans notre studio, et c'est un bonheur, pas seulement pour ça, hein, de vous retrouver tous et toutes, un bonheur de retrouver aussi mon petit Rémi très frais.
Oui,
je te trouve très, très très frais,
oui,
Rémi.
Ça va.
Ça va. T'es bien.
Bonjour, Roselyne, bonjour à tous.
Et oui, notre société subit une véritable dictature de la minceur. Alors attention, hein, je ne parle pas des petites nanas qui font du 38-40 et qui rêvent de perdre 2 kilos avant les vacances. Ça, vraiment, c'est pas de celle-là dont on veut parler. Mais quand on voit que avec quelques kilos superflus, on est déjà victime de discrimination, et ça a été tout à fait étudié, ça, hein, en particulier chez les femmes. Alors, imaginez, quand on voit les discriminations, quand on a seulement quelques kilos en trop, imaginez la discrimination dont sont victimes les personnes obèses. On a même parlé, c'est un nouveau terme, de grossophobie. Ça commence dans sa propre famille, où on peut être moqué ou écarté par ses parents ou ses frères et sœurs. Alors je te dis pas, Rémi, à l'école, où quand on étudie les phénomènes de harcèlement et de violence, le fait d'être un peu enveloppé, c'est la première cause de ces violences et de ce harcèlement. Ensuite, ça continue dans le boulot, peu importe les compétences et les qualifications, le fait d'être gros est un facteur de discrimination à l'embauche, est un facteur de discrimination dans votre parcours professionnel.
Sur les salaires,
sur les promotions. Le suivi médical est déficient. Les charlatans font la loi. Et en fait, bien souvent, il n'y a qu'une chose qui maigrit dans ce parcours médical, c'est ton portefeuille. Tu vois, j'avais comme ça une copine à qui j'avais demandé, mais combien t'as perdu? Elle m'avait dit 3000 euros.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est tout. Des programmes américains de télé, comme dans le relooking extrême, spécial obésité, ça confine à de la torture et à de la violence, hein. Et je trouve qu'il est très curieux que l'on s'indigne à juste titre des discriminations liées au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'origine ethnique, et on ne s'indigne jamais d'un véritable racisme, une véritable exclusion dont souffrent les personnes corpulentes. La grossophobie est une discrimination qu'il faut traiter comme les autres. Alors, vous m'appelez au 3216, vous m'écrivez sur rmc.fr ou vous tweetez sur Bachelot_RMC.
Et puis vers 15h45, vous n'oubliez pas, c'est vous qui faites l'actu, vous nous dites ce qui vous touche, ce qui vous marque dans l'actualité du jour, et vous nous appelez au 3216.
Je crois que les femmes rondes sont des femmes courageuses.
Je pense qu'on a le physique qu'on a et puis on doit faire avec. Je pense que même une femme ronde arrive à plaire, quoi, autant qu'une femme mince.
Je suis femme, je suis les deux, je suis sexy.
J'aime beaucoup les femmes rondes, oui, bien sûr.
Chacun son truc.
Je suis pas fan des femmes rondes, mais quelques kilos en trop, ça me dérange absolument pas.
Chaque personne est comme elle est, et à partir du moment où chaque personne s'assume, je trouve ça très bien.
Je préfère une femme musclée et qui fait du sport qu'une femme pleine de graisse.
Ah, c'est dans ta tête, hein. Mmh. Moi, je peux rien faire pour toi, ma chérie.
Être ronde, c'est pas une tare en soi. Moi, je me trouve ronde et je m'aime comme je suis.
Ouais. 15h10 sur RMC. Et oui, on en a marre de ce racisme anti-gros. Et si j'ai voulu traiter ce thème, Rémi, c'est que j'ai lu un livre formidable. Ça s'appelle « On ne naît pas grosse » aux éditions de la Goutte d'Or. Et c'est Gabriel Dédier qui l'a écrit. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un livre formidable parce que vous allez... Alors, vous nous dites... Vous pesez 150 kilos pour 1m53, c'est ça?
Quand j'ai écrit le livre, j'ai commencé à écrire le livre, j'étais à 155. Depuis, j'ai perdu une quinzaine de kilos. Mais,
ah, pardon.
Mais oui, enfin, on peut mettre 150, 140. De toute façon, ça change pas grand chose.
Ah, oh, bah quand même, 15 kilos, c'est 15 kilos. Donc maintenant, vous pesez 140 kilos pour 1m53. Ouais. Alors, racontez-nous, Gabriel. Vous dites, on ne naît pas grosse. Quand est-ce que vous avez commencé à grossir? Vous aviez quel âge?
Alors j'ai toujours eu une petite taille en plus par rapport à mes camarades, mais enfin un petit bidou de petite fille. Enfin, et à l'adolescence, j'étais très sportive, j'étais très musclée, mais enfin il y a eu un moment où je suis passée du 40 au 42. deux et là ça a été assez dur parce que bah, ma mère s'inquiétait beaucoup que
surtout que vous aviez une maman très mince bah, je
crois qui s'habille en 34 donc okay. Donc voilà donc déjà le 40 enfin c'était il fallait pas aller au 40 mais alors le 42 elle s'inquiétait et moi j'ai décidé d'aller voir un docteur en fait
plus que s'inquiéter parce que dans le livre vous l'expliquez bien ça a été assez violent quand même là quand votre maman a réalisé que vous faisiez du 42.
Ah bah oui parce que pour elle en fait le 42 c'était je passais de l'autre côté et dans sa tête c'était tout de suite l'obésité
Mais comment ça s'exprimait comment elle vous c'était votre maman elle vous aimait vous l'aimiez ça s'exprimait comment cette discrimination qui surgit dans le milieu familial
c'était
vous vous privez de nourriture
non jamais mais il y a toujours eu en fait cette injonction contradictoire de il faudrait que tu sois plus mince mais à côté de ça fallait repas enfin je mangeais comme mon père qui était maçon quoi donc voilà ça a toujours été très ambivalent mais parce que elle est elle-même ambivalente dans son comportement enfin ma mère elle peut se nourrir d'une boîte de sardines pour la journée et à côté de ça elle a ce besoin pathologique de nourrir les autres et donc c'est toujours très ambivalent et c'est moi qui ai décidé d'aller voir un médecin parce que j'ai des copines qui étaient allées voir un toubib.
Vous avez 14-15 ans
J'ai 16 ans, ouais.
Quand vous commencez à...
C'est ça.
C'est ça. Alors, donc vous commencez à voir un médecin. Qu'est-ce qu'il vous dit, le médecin?
Alors, moi, j'y vais pour 10 kilos de trop. Lui, il me dit qu'il en a 20.
Ouais, d'accord.
Parce que, enfin, il était encore de l'époque où on calculait 10 kilos en toute sa taille. Enfin,
c'est ça.
Ça se fait plus, mais c'est
oui,
encore...
Maintenant, vous allez nous parler de l'IMC dans un moment, du fameux IMC.
Voilà. Et donc moi, j'y vais pour 10 kilos. Il me dit qu'il en a 20. Et puis, il me fait des bilans sanguins. C'est un endocrinologue et donc des bilans sanguins il déduit que j'ai une maladie d'une glande qui s'appelle la glande surrénale et là bah, il me file un traitement
qui va vous déglinguer
mais qui me déglingue je prends d'abord 30 kilos pendant l'été
résultat d'un mauvais traitement d'un mauvais diagnostic. Hop, comme ça, vous vous cognez 30 kilos et là, tout part en sucette, quoi.
Voilà, donc je me cogne les 30 kilos. Du coup, bah là, il décide de passer au régime plus. Hein. Enfin, je suis allée au régime à 1400, à 1200, jusqu'à 900 calories.
Il vous a affamé complètement.
Il m'a affamé et du coup, bah, j'ai développé un rapport complètement déviant à la nourriture. Je savais plus ce qui se mangeait, ce qui se mangeait pas. Et la nuit, j'avais faim et je cherchais dans les placards parce que c'était insupportable et puis de voir que je grossissais malgré le fait d'être au régime et enfin j'avais ces pulsions qui étaient affreuses et donc je vais voir ce médecin pour maigrir et 8 mois plus tard je suis à 120 kilos je faisais 65 kilos à la base et donc enfin je me transforme littéralement et à partir de là je décide de changer de docteur et je les enchaîne et tous ils partent sur le diagnostic initial en fait
oui et, ils se remettent pas en cause
jamais
c'est une sorte de mafia
mais c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas
oui.
et j'en suis arrivée au point où j'ai décidé de plus aller voir un docteur parce que
il vous rendait malade.
Ben c'est ça. Enfin j'étais. Enfin je m'étais transformée complètement.
Alors on a
Stéphanie.
Oui, Stéphanie
nous appelle au 3216. Elle est en Charente-Maritime et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, Gabriel. Elle va nous parler des opérations.
Ah, oui.
Voilà. Alors
de la chirurgie.
Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Il doit faire un temps superbe à La Rochelle.
Ah, chez nous, c'est parfait. En plus, il y a un petit peu de vent, donc je ne souffre pas de la canicule.
Vénarde, Stéphanie. Alors, vous-même, alors, c'est oui. Pas vous, mais c'est votre fille qui a des problèmes.
Non, c'est elle et moi, en fait.
Vous toutes les deux. Allez-y, racontez-nous votre histoire,
moi,
Stéphanie.
Je suis une obèse, pas encore.
Oui.
J'espère plus trop longtemps, mais quand j'ai entendu la dame qui vient d'écrire le livre, je me suis bien reconnue.
C'est exactement oui, elle s'appelle Gabrielle Dédier.
Gabrielle, voilà, c'est son livre. Je me suis vraiment reconnue, j'ai à peu près le même parcours, avec une maman mince, qui dès l'âge de 10 ans, commence à dire « Oh là là, mais c'est quoi ces petites rondeurs ?» et voilà, donc j'ai le même parcours qu'elle, sans avoir eu les problèmes médicaux, parce que j'ai un caractère qui fait que j'ai par principe moyennement confiance. Donc pour je leur donne plus ma confiance. J'attends de voir.
Oui.
Mais là, voilà, Donc, et moi, j'ai une fille qui, elle, est née à 750 grammes. Donc, quelqu'un qui est obèse, qui fait un bébé de 750 grammes, c'est assez courant, parce que l'obésité, c'est aussi ça.
Ouais.
C'est aussi des problèmes médicaux avec des enfants. Et elle, à l'inverse, a toujours été très, 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 très maigre, mais obsédée par le poids, parce qu'une maman obèse.
Ah ouais, parce qu'il faut savoir, vous avez raison d'en parler Stéphanie, parce que les troubles de l'alimentation, c'est y a quelque chose, il y a un rapport entre anorexie et évidemment et boulimie et par exemple.
Vous parliez au départ de cette espèce de côté insupportable qu'ont les gens de croire que les gros passent leur temps à bouffer des mars et des glaces. Non, une bonne fois pour toutes, nous ne sommes pas ça. Les gens pensent que si on est gros, c'est parce qu'on l'a cherché, c'est parce qu'on l'a voulu. Alors non, non, non. On est gros parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes gènes, peut-être pas la même chance par rapport à l'alimentation, peut-être un déséquilibre. Il y a plein de causes, mais en tout cas, c'est une réelle maladie. Il faut arrêter de croire ou arrêter de nous mettre sous le nez que si on est gros, c'est parce que c'est notre
mais
faute.
Mais oui, c'est ça. Mais
ou parce que c'est la faute de nos mères, parce que souvent, c'est aussi ça. Alors moi, j'ai une mère...
C'est ce que dit Gabriel, oui, très juste.
Ah oui, oui, parce que moi aussi, ma mère, elle est fine, mais elle n'a pas fait du tout dans le sens de me faire mal. Elle ne s'est pas rendue compte. C'était aussi lié à la génération. Moi, je suis des années 70, et dans les années 70, les nanas, il fallait que ce soit taillé dans un fil. Il y avait encore un autre regard sur la rondeur. Et je trouve qu'on a tendance à croire que les gros sont gros effectivement par nature.
Oui, ou oui. Stéphanie, je vais faire réagir sur ce que vous dites qui est important. Je vais faire réagir Gabriel. Vous l'avez senti, vous Gabriel, ce regard des autres qui est un regard stigmatisant et culpabilisateur. Tu es grosse, c'est de ta faute, c'est que tu te laisses aller. Vous le racontez très bien d'ailleurs dans votre livre.
Bah, en fait, j'ai même pas besoin de le sentir, on me le dit. Donc,
pareil.
Donc voilà, c'est même pas une histoire de paranoïa de.
D'imaginer que les autres pensent, oui, ils vous le disent.
Voilà, je pourrais être paranoïaque, mais il se trouve que...
Ah, mais vous savez, même les paranoïaques ont des ennemis, hein.
Voilà. Mais il se trouve que, on me le dit directement, mais on me le dit directement parce que les gens n'ont aucun filtre avec les personnes qui sont grosses. C'est, vous savez, on parle souvent de l'absence de filtre sur les réseaux sociaux. Eh ben, quand vous êtes grosse, c'est comme si vous étiez, sur le réseau social. Les gens, mais alors, n'ont aucune limite et tout ça, ils excusent en plus leur grossophobie sous couvert bonne santé. C'est pour ton bien qu'on t'insulte, hein, pour te secouer, parce que évidemment nous on n'y a jamais pensé à se secouer. Donc ouais, voilà.
Il y a une telle, pour certaines personnes, il y a une telle dévalorisation de ce que vous êtes qui s'autorise toutes les insultes. C'est quand même incroyable.
Bien sûr. En plus, il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu portes pas plainte et pourquoi tu t'énerves pas, mais parce que déjà, moi je le dis, c'est de la banalité du quotidien. Enfin, je pourrais porter plainte, tous les trois jours. Enfin, et je vais pas passer ma vie à porter plainte. Donc
vous,
voilà.
Vous avez ressenti la même chose, Stéphanie. Vous avez été vous-même victime de ce genre, de cette dévalorisation massive.
Ah mais complètement, c'est juste quand vous allez dans un magasin de vêtements et qu'on vous dit ah non, j'aurais rien pour vous madame.
Ah ouais, c'est ça.
Ça paraît dérisoire, mais quand on est rond ou qu'on est ado ou qu'on est mais c'est terrible. Et en même temps, moi je leur en veux pas, je suis passée au-delà de ça, c'est peut-être l'âge. Mais je suis passée au-delà de ça parce que je pense qu'on est tous maladroits face à quelque chose qui est différent. Et le poids c'est différent et ce que moi j'aimerais qu'on puisse faire ressentir c'est que oui, on a nos différences, mais en nous, on est bien les mêmes. Je me sens heureuse, libre, chef d'entreprise, bien dans mes baskets. Oui, j'ai des kilos en trop. Oui, je me soigne parce que malgré tout, c'est ce que là où j'ai peut-être une petite différence, c'est que moi, je trouve qu'on n'est pas heureux quand on est gros, pas heureux dans son corps, pas dans sa tête. Parce que c'est lourd dans tous les sens du terme.
On l'a bien compris si on est victime de discrimination.
On fait plus de 100 kilos. Physiquement, il faut déjà le vivre. Travail, il faut le vivre partout.
Merci Stéphanie de votre témoignage. Et il n'y a pas que les femmes.
Exactement.
Il y a les hommes aussi.
Et Ludovic qui nous appelle au 32-16 sur RMC. Ludovic, il est en Haute-Loire.
Bonjour Ludovic.
Bonjour Roselyne, bonjour à toute l'équipe.
Alors, racontez-nous votre vécu de tout cela.
Eh ben, en mars 2015, je pesais 141 kilos.
Waouh! Pour quelle
141
taille?
141 kilos, 300 pour 1m83.
Oui.
J'avais un IMC de plus de 42.
Mm-hmm.
Donc j'avais grossi parce que bon, j'étais pas bien à l'époque et c'est vrai que
donc ce qu'on appelle une obésité sévère,
morbide même.
Morbide, oui, c'est vrai,
c'est le terme médical, c'est le terme médical si je me trompe pas, obésité morbide.
Voilà, mais alors j'ai découvert en faisant le livre que le morbide utilisé c'est pas le même morbide que dans la poésie, ouais, c'est le morbide qui veut dire maladie. Mais c'est super
encore
dur.
Encore faut-il le savoir. Hein.
Voilà, mais moi je l'ai su en faisant le livre et ça c'est super dur à encaisser quand on vous dit vous êtes obèse morbide.
Ouais, vous cherchez vous cherchez à mourir.
Quoi. Alors c'est ça. On revient à Ludovic. Alors donc
quand on voit le terme morbide sur internet, c'est clair, comme nous dit votre invité, c'est impressionnant parce que bon, on se dit, on a l'impression qu'on le fait exprès de grossir, mais non, on grossit parce que on sait pas quoi. C'est est-ce qu'on se nourrit mal, est-ce que c'est le stress, il y a plein de choses, mais je veux dire, on n'est pas gros par plaisir d'être gros, on est gros parce que on sait peut-être pas bien manger, on n'est peut-être pas dans le bon régime, on sait pas, mais. Après, il suffit de savoir s'entourer et ça, c'est important aussi. Mmh. Et moi, j'ai eu la chance d'épouser quelqu'un de formidable en août 2014, David, qui j'espère écoute.
Ah bah j'espère. David. On salue votre chéri, Ludovic.
Et il m'a soutenu, il m'a accepté malgré mon surpoids et tout, parce que bon, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. Donc il m'a vu grossir, il m'a vu que j'allais pas bien. Et il m'a soutenu dans ma démarche d'opération parce que le racisme anti-gros, même si le terme racisme est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que c'est un terme qui est juste en même temps. Parce que quand on voit, pour s'habiller, quand je faisais près de 140 kilos, je pouvais m'habiller que dans une seule enseigne. Toutes les autres enseignes, c'était impossible. Ils allaient que jusqu'au XL.
Alors donc, Ludovic, oui, vous êtes victime de ces discriminations, de ces injures, de cette dévalorisation dont parle Gabriel Dédier. Donc, vous faites opérer. Qu'est-ce que vous faites comme opération ?
Alors, j'ai été opéré en mars 2015 suite au soutien de mon cher et tendre, suite aussi
d'accord.
À une discussion avec mon entreprise parce qu'il a fallu que je m'absente près de 2 mois. J'ai subi un bypass.
D'accord, on va en parler avec Gabriel. Et là, donc, vous en êtes à quel poids, Ludovic ?
Alors, opéré fin mars 2015. Un mois après, j'étais déjà à 20 kilos de perdu. Au bout d'un an, j'étais à 69 kilos de perdu.
Ah, d'accord. Donc, vous faites maintenant 80 kilos pour 1m80 à peu près ?
Là, j'étais descendu à 72 kilos. Et là, actuellement, je fais 75.
D'accord. Donc on va.
Je suis passé
de
la taille 58 à la taille 38-40.
Bon, on va. Merci de votre témoignage, Ludovic. On va reparler de tout ça justement de ces opérations parce que justement Gabrielle Dédier, elle en fait un bilan, disons en demi-teinte. Hein, et on va reparler de ce bouquin formidable. On a Gabrielle Dédier avec nous. On ne naît pas grosse aux éditions de la Goutte d'Or.
Et puis vous n'oubliez pas, dans 20 minutes, c'est vous qui faites l'actu. Vous nous dites ce qui vous touche, ce qui vous marque, et vous nous appelez. C'est le même numéro pour parler du thème, comme pour c'est vous qui faites l'actu, c'est le 32.
RMC, 100% Bachelot. RMC.
Ce qui est très vicieux dans la mode, c'est qu'on ne vous dit pas il faut maigrir. On vous dit tu fais 1m80, il faut rentrer dans une taille 32.
Il y en a marre.
15h-16h.
On voit souvent les os qui vont ressortir.
Il n'y a plus de différence entre la cuisse, le mollet.
Opinion. Solution.
C'est une spirale infernale de tomber là-dedans. Et finalement, plus on maigrit, plus on a l'impression d'être gros.
100% Bachelot sur RMC.
Vous êtes toujours avec nous, avec 100% Bachelot, avec Rémi Barret. On parle du racisme intolérable qui frappe les gros. On continue avec Gabrielle Dédier qui a fait un livre formidable, On ne naît pas grosse. Et puis on continue avec Bernard Andrieux. Bernard Andrieux qui est professeur d'université à Paris Descartes, sciences et techniques des activités physiques et sportives, philosophe, auteur de Restez beau, c'est tout un programme aux éditions du Murmure. Bonjour Bernard Andrieux.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous qui êtes... Vous qui réfléchissez, qui intellectualisez tous ces problèmes, comment voyez-vous cette société qui ne supporte pas les gros ? Qu'est-ce qui se passe chez nous ? Pourquoi ?
Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est bien évidemment l'idée qu'on a instauré une norme, hein, finalement, d'un corps fonctionnel, relativement standard. Et on va stigmatiser tout ce qui déborderait au sens physique, mais sans doute aussi au sens moral. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation finalement morale qui indique qu'on va rejeter les individus qui n'auraient pas la silhouette hein, finalement mais, adéquate. Enfin,
Bernard Andrier, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que dans toute la société, on lutte contre les sociétés modernes, on lutte contre les discriminations à juste titre, on combat les exclusions liées, par exemple, à l'homosexualité, à l'origine ethnique, l'égalité homme-femme, mais les mêmes qui vont se monter, j'allais dire, sur les barricades pour lutter contre ça, oh ben oui, ils vont facilement exclure les gros. Pourquoi ? Pourquoi on est comme ça ?
Et parce que, justement, le problème, c'est son propre corps. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous luttons par rapport à des normes de poids, des normes de forme, des normes de silhouette. Et donc, on a toujours besoin de désigner un adversaire qui est soit celui qui est plus maigre, vous voyez, soit celui qui est plus gros. Et donc, si vous voulez, pour monter sur la barricade, il faudrait monter sur soi-même. Vous voyez, il faudrait lutter contre son propre corps. Or, c'est ce que nous faisons tous les jours. Ouais. C'est-à-dire, tous les jours, les gens se privent, disent, ah ben là, on rentre dans la période plage, donc il va falloir que je fasse un régime, etc. Et donc, bien évidemment, quand vous avez des personnes qui sont manifestement très différentes de nous, parce que justement, on va pouvoir plus facilement les montrer, parce que c'est de l'ordre du visible, de l'ordre de l'apparence, alors à ce moment-là, il y a une sorte de vengeance, de désignation du bouc émissaire.
Je trouve vraiment ça intolérable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment, Bernard Andrieu, il faut réagir ? Qui doit porter ce combat ?
Alors justement, votre invité est tout à fait manifeste de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on appelle ça aux États-Unis la body positivity. Mmh. Hein, c'est-à-dire la positivité corporelle. Les agents qui sont stigmatisés vont retourner. Hein, ils vont retourner le stigmate hein, à la société et ils vont prendre la parole en première personne et ils vont témoigner. Ils vont dire, ben, regardez les conditions matérielles. Hein, quand je suis dans cette situation-là, les conditions que vous me faites, finalement, que la société fait. Donc, il y a un retournement. Et c'est un retournement politique.
Hein, c'est-à-dire, exactement. Finalement,
c'est une façon de faire de la politique. Hein, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Quand on a eu des malades séropositifs qui manifestaient dans la rue, eh bien, aujourd'hui, on a des personnes, finalement, qui sont désignées comme, entre guillemets, malades et qui vont se retourner hein, contre la société.
Et interpeller la société et nous mettre devant nos responsabilités.
Exactement.
Oui, merci. Merci Bernard Andrieu d'avoir, je dirais, élevé le débat. Gabriel Dédier,
oui.
On vient d'avoir Ludovic au téléphone qui nous a dit « J'ai perdu 70 kilos ». Ça vous a fait un peu peur. Racontez-nous comment vous avez appelé ça, l'euphorie, non, la lune de miel.
Sachant que Frédéric, il a procédé par chirurgie.
Il s'est fait
opérer. Il a perdu 70 kilos en un an.
Oui, il a fait un bypass, ce qu'on appelle un bypass. Donc, le bypass, c'est une opération qui consiste à réduire la taille de l'estomac et court-circuiter les organes en fait pour aller directement aux intestins.
La nourriture n'est pas assimilé.
Le
donc,
but, c'est la malabsorption.
La malabsorption du bol alimentaire.
Voilà. Sauf que, normalement, il y a des indications hein, pour suivre ce type d'opération. Et la haute autorité de la santé dit qu'après ces opérations, il faut un suivi multidisciplinaire.
Et en particulier psychologique.
En particulier.
Parce que ce qui vous a amené à être gros, ça disparaît pas pour autant.
Voilà. Et il se trouve qu'il y a une période qu'on appelle la lune de miel qui tourne autour de 18 mois après l'opération. Et donc il y a cette euphorie d'avoir perdu du poids, ce qui est normal quand on est arrivé au poids qu'il a atteint avec les souffrances qu'il y a eu et qu'il y a un docteur qui dit qu'il va nous changer la vie et ça va changer la vie, mais pas toujours pour le meilleur en fait. Et donc ces opérations, il faut quand même savoir que je souhaite pas du tout à ce charmant monsieur, mais enfin il faut savoir qu'il y a des risques, qu'il y a des risques déjà au niveau de la dénutrition, qu'il y a des risques de perdre ses dents, de perdre ses cheveux, mais pas que. Il y a des risques le taux de suicide augmenté est multiplié par deux. Ça, c'est une étude qui a été faite, qui a été publiée dans la revue JAMA, il y a une population de 8000 personnes des obèses non opérées et des obèses et des opérées. Le taux de suicide entre les deux, c'est quand on est opéré, c'est x2. Et pourquoi il y a ce taux de suicide? Pour des tas de raisons, mais en particulier le fait de pas être allé à la racine et de déplacer ce qui nous conduisait à manger ailleurs, dans la drogue, dans l'alcool.
On soigne les effets, mais pas la racine du mal.
C'est
quoi.
Ça. Oui. Mais
et vous donnez des chiffres dans votre livre. On est aujourd'hui, enfin l'année dernière, 50 000 opérations en France,
oui.
Alors que c'était, il n'y en avait quasiment pas.
Ça a quadruplé. Voilà. Ça a quadruplé.
Il y a des gens qui doivent se faire du pognon là, quand même.
Ah mais alors, je vous garantis que les dépassements d'honoraires, ils font pas semblant. Hein.
Et justement, en parlant des médecins, la médecine en général, il y a autre chose qui m'a frappé dans le livre, c'est la violence à laquelle vous avez été confronté. Moi, ça me paraît incroyable de la part du corps médical.
Mais c'est là, c'est vraiment la grosse tristesse.
Vous citez l'exemple d'un gynécologue, d'un dentiste. Si vous pouvez les.
Ah oui, bah alors le dentiste, bah j'ai une carie, ça arrive. Hein,
Oui.
C'est pas de bol. Et puis je vais voir ce dentiste. Et puis là, il me dit, oh là là, le fauteuil, il est neuf. Hein, Donc déjà, incroyable. Il a peur que je lui pète son fauteuil, alors que il n'y a pas une esthéticienne sur Terre qui m'a dit que j'allais lui péter son banc quand elle m'épile les jambes. Hein. Mais lui, le dentiste, il n'a pas le matos adéquat, visiblement. Et puis, il visite ma bouche et il voit la carie et il fait, bon, c'est pas sérieux, vous buvez trop soda. Je lui dis, non, je bois pas de soda. Il fait, alors il va falloir arrêter de se laver les dents avec du caramel. Et ça, mais...
C'est incroyable.
Ça fait rire, mais en même temps, c'est révoltant.
Mais bien sûr.
C'est bien de rire
parce que ça montre à quel point c'est ridicule. Ou alors les gynécologues, les gynécologues, il y a quand même une barbarie spéciale chez les gynécologues. Donc quand on est grosse, a priori soit on n'a pas de relation sexuelle, soit on peut pas tomber enceinte. Et il est arrivé qu'une fois j'ai des douleurs aux ovaires insupportables. Il y a personne qui m'a demandé si j'avais eu, s'il fallait vérifier que je sois enceinte ou pas.
Chez
n'importe quelle femme, on aurait fait
vous
un test de grossesse.
Vous êtes privée de votre féminité.
Chez n'importe quelle femme, on aurait fait un test de grossesse en fait. Ou l'échographe qui vous dit qu'il y a trop de gras et qu'on va gaspiller l'argent de la sécurité sociale. Au secours.
Alors on a Maxime.
Maxime nous appelle au 32-16 sur RMC, il appelle depuis la Gironde.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors, vous-même avez été confronté à ces discriminations anti-gros?
Ah bah oui, bah vous savez, quand on est à l'école, bah j'étais le petit gros de la classe, quoi. Voilà. Dès la primaire, bah on est celui qui est pas invité. Au collège, on est celui qui est malmené. Enfin voilà, quoi, avec tous les petits mots qui peuvent aller avec, quoi.
Oui, c'est ça. Et je crois que tout ça a été accéléré par la mode des téléphones portables, etc., et du harcèlement qui a.
Oui, mais je pense même avant, vous savez, quand on était petit. Enfin même aujourd'hui, je pense. Enfin là, je rebondis un peu dessus, mais vous savez. Dans tous les dessins animés pour les gamins, celui qui est un petit peu gros dans les dessins animés, c'est l'idiot. Donc, du coup, les gamins aussi, je pense, il y a un phénomène de reproduction à l'école. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent partir de là aussi. On leur montre des stéréotypes et du coup, ils reproduisent à l'école, je pense, beaucoup.
L'image du gros bêta, elle est liée au fait qu'on estime qu'on a une carence de la volonté si on est gros.
C'est ça.
C'est complètement faux. Voilà, et on se laisse faire, mais on n'essaie pas d'occuper l'espace public. Donc, les gens comprennent pas qu'il y a une sorte de timidité, que le gros il rase les murs parce qu'il a pas envie justement de se faire
de se prendre des coups dans la figure.
Ça vient de là, quoi.
Ce qui est intéressant, Maxime, c'est que vous avez fait du traitement de l'obésité votre métier par la digitoponcture.
Alors le traitement de poids, tout simplement, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens obèses qui se sentent mal, mais effectivement toutes les formes de surpoids. Et en fait, j'ai fait une cure d'amincissement dans les franchises Terraform, cure qui m'a fait perdre 16 kilos en 3 mois. Que je n'ai pas repris depuis un an et demi maintenant. Et en fait, je me suis décidé de me lancer moi-même dans l'aventure, ouvrir mon centre donc à Bordeaux, en Gironde. Et ce qui est extraordinaire avec cette méthode, c'est qu'on n'est pas du tout sur l'idée d'un régime, premièrement. On est sur l'idée de rééducation alimentaire. Je m'explique, nous n'utilisons ni produits ni compléments alimentaires. Il y a un invité tout à l'heure qui disait on ne sait pas comment manger. Ben là, on apprend aux gens comment manger. Si vous voulez, c'est un accompagnement, c'est un système de cure. Les gens viennent chez nous de manière ponctuelle. Alors ça peut être, quand je dis ponctuel, ça peut être sous un mois, deux mois, trois mois, en fonction du poids à perdre. Et ensuite, ils savent se gérer.
Très bien, bah écoutez, voilà. Maxime, merci de nous avoir signalé cette technique. Elle est évidemment dans le portefeuille, si j'ose dire, au propre et au figuré de ceux qui souhaitent récupérer, enfin perdre un peu de poids, perdre du poids. Gabrielle.
Si je peux me permettre, en plus, c'est vraiment prendre qu'une partie des raisons pourquoi les gens sont gros. Et l'obésité, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et alors certes, il y a ces histoires de rééquilibrage alimentaire, de pas savoir manger à satiété, etc. Mais pourquoi les personnes justement vont au-delà de leur satiété? Pourquoi elles ne comprennent pas les signaux que leur envoie leur estomac? Et puis il y a pas que ça, l'obésité c'est aussi une maladie environnementale, c'est une maladie de la pauvreté.
Exactement, c'est un marqueur social.
Bien sûr. Enfin 15% de la population est obèse, mais 26% des smicards le sont. Et ça c'est
genre... très important, vous le redites Gabriel Dédier. Merci à Maxime et on a Lionel.
Lionel nous appelle au 3216, il est dans les Bouches-du-Rhône.
Bonjour Lionel, Salon de Provence, magnifique ville. Lionel, dites-nous.
Bonjour Jean, bonjour tout le monde.
Alors vous êtes monté jusqu'à 170 kilos Lionel.
Exactement, oui. En 2015, je faisais 170 kilos. Et puis en fait...
Lionel, vous aviez maigri à quel âge à peu près?
Donc là, moi j'ai 35 ans cette semaine d'ailleurs, 2015, donc c'était il y a 2 ans, j'avais 33 ans.
C'est-à-dire que vous étiez gros quand vous étiez petit, c'est adulte?
J'étais plus ou moins enrobé, mais en fait en 2013, j'ai perdu ma compagne de l'époque.
Suite à un choc. D'accord. Ouais. Et c'est là que votre poids a dérapé.
Oui, j'ai pris énormément de poids. J'étais déjà en surpoids à l'époque, mais j'étais aux alentours des 170 kilos. Et là, donc effectivement, après le décès de ma compagne, je suis monté progressivement, donc jusqu'à 170 kilos en mai 2015. Et en parallèle de ça, je faisais des apnées du sommeil.
D'accord. Oui, c'est souvent ça. Oui, il y a toutes sortes. On va en parler d'un mot, mais il y a toutes sortes de pathologies liées à l'obésité. Et effectivement, l'apnée du sommeil est pratiquement tout, enfin un accompagnement classique de l'obésité. Et vous avez perdu 60 kilos par un accompagnement de nutrition.
C'est ça, voilà. Je me suis fait, suite à l'apnée du sommeil, je me suis fait équiper pour traiter ce problème-là. Et en parallèle, effectivement, j'ai été suivi par une nutritionniste qui m'a pas du tout bridé.
D'accord.
C'est-à-dire que dès que j'ai commencé en fait avec elle, elle m'a appris à rééquilibrer mes repas.
On est coupé là, zut. Attends,
écoute, merci en tout cas à Gabriel de nous avoir appelé au 3216.
Merci à Gabriel. Non, c'était pas Gabriel. Gabriel, elle est avec nous.
Lionel, pardon.
Tu me fais déraper.
Non, j'étais surpris par cette coupure intempestive.
Gabriel, un mot de conclusion, mais c'est de dire qu'on sait pas avec un régime même accompagné qu'on va résoudre ces problèmes.
On sait faire maigrir les gens, on ne sait pas ne pas les faire regrossir en fait.
Ah, donc,
maigrir, enfin tout le monde est capable quasiment, hein. Enfin c'est par contre à 5 ans après le régime ou même après une opération, les reprises de poids sont là, donc on ne traite pas la racine. Et moi en fait ce que je voulais dire, c'est que
je rappelle le titre de votre livre, On ne naît pas grosse, à la goutte d'or.
Voilà, donc je veux pas qu'on croie que sous prétexte que je parle de ça, je fasse une apologie de l'obésité ou de quoi
bien
que
sûr,
ce soit.
On a bien compris.
Voilà, moi je veux dire qu'il faut il faut se réapproprier son corps, mais pas que, il faut aussi que les pouvoirs publics traitent de ces sujets. Là, vous demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce que on fait des pourquoi on le racisme, l'homophobie, etc., sont compris, mais je pense qu'il faudrait faire des campagnes.
Sans doute.
Sensibiliser.
Voilà.
Merci Gabriel. Halt aux discriminations. On ne naît pas grosse. Édition de la Goutte d'Or. Gabriel Dédier, c'est formidable.
Et tout de suite, c'est vous qui faites l'actu avec Rémi Barré. Moi, je me suis dit, Rosine n'a pas parlé de ça.
RMC.
Ça pose un problème, en fait, votre positionnement.
Ça m'a fait réagir.
100% Bachelot.
Rosine n'a pas parlé de ça.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
C'est vous qui faites l'actu.
On n'a pas parlé de ça.
100% Bachelot sur RMC, c'est vous qui faites l'actu comme tous les jours. Vous nous appelez au 3216 pour nous dire ce qui vous fait réagir dans l'actualité. Avec moi, comme chaque jour, Manon Bourget. Bonjour Manon.
Salut Rémi, bonjour à tous.
Il y a déjà pas mal d'appels au 3216 parce qu'il y a pas mal d'actualités.
Et oui, hein, ça y est, là, ça a repris hein, la rentrée.
Ça sent
là.
La rentrée.
Ça sent la rentrée.
On est content.
Exactement, on commence par Jean-Luc. Jean-Luc qui nous appelle de Gironde.
Bonjour Jean-Luc, bienvenue sur RMC.
Bonjour à toute l'équipe et bonjour à Roselyne. Je vais revenir un peu sur les travailleurs détachés que j'ai entendu aux grandes gueules ce matin. Car je trouve que le débat se fait toujours qu'on paye mal ces gens-là, qu'ils arrivent de l'Est, qu'on les exploite, etc. Moi, je suis soit un agricole, j'ai environ 80 employés, j'ai 60, on va dire, travailleurs étrangers chez moi. Que j'embauche en direct en Roumanie et en Slovaquie. Quand j'ai besoin d'une personne, deux personnes, je m'adresse à quelqu'un et il me les envoie. Enfin, un de mes travailleurs chez moi, il me les envoie chez moi. Je les paye au tarif français. Je leur paye des heures supplémentaires.
Donc, vous respectez la législation.
Exactement.
Faut rappeler juste, je me permets.
La législation française, au moment, les oblige. Nous oblige à les payer voilà, au tarif français.
Voilà, c'est l'union, la mesure, les travailleurs voilà. Détachés, c'est cette mesure européenne. Elle impose en effet de payer, enfin de faire travailler voilà. Ces étrangers dans les conditions de travail voilà. Et avec les salaires du pays qui les accueille. Donc voilà. En l'occurrence, vous, on est en France, donc vous les payez avec le salaire français.
Vous
leur assurez les conditions de travail. En revanche, exact. Les charges sociales sont celles du pays d'origine.
Non, je paye mes charges en France.
Non, mais sur les charges sociales des salaires que vous versez?
Je les paye en France. Je suis à la MSA, moi je suis à l'unité sociale agricole, d'accord. Je les paye entièrement en France. On peut contrôler tous mes bulletins, etc. Je paye comme si c'est des travailleurs français.
D'accord. Parce que moi j'avais lu que les travailleurs détachés dépendaient en fait des charges sociales
non, mais
du
moi,
pays
je
d'origine.
Pas de travailleurs détachés. Moi je prends des gens de Roumanie, ils viennent chez moi, ils sont pas détachés.
On parle pas de travailleurs détachés.
Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je suis entièrement d'accord avec Macron. Qu'est-ce que c'est d'employer des gens à l'extérieur, payer les charges à l'extérieur? Et alors, la concurrence, moi, voilà. J'ai un légume qui vaut 1 €, excusez-moi, il vaut 1 € à mon prix de vente, alors quelqu'un d'autre va le vendre 80 centimes.
Donc vous ne recourez pas aux travailleurs détachés, on est d'accord, que ça soit bien clair.
Oui, ce
sont des gens que vous recrutez à l'étranger. Voilà. Alors pourquoi vous passez par l'étranger, la question
Vous savez, évidemment. On a un travail, je ne veux pas dire qu'on a un travail pénible, moi je fais travail depuis 25 ans, j'étais dans les champs en train de ramasser des radis, mais pour trouver des travailleurs à l'heure actuelle qui veulent faire ce travail-là, je ne veux pas dire français, mais c'est très compliqué. J'en ai 30 saisonniers français aussi, bien sûr, et une vingtaine de permanents français. Mais pour recruter maintenant, c'est très compliqué.
Alors, vous avez répondu à ma première question, Jean-Luc. L'autre question que je vous pose, vous avez répondu, oui, je le sais déjà, mais je vous la pose quand même. Clairement, pour vous, les travailleurs détachés, c'est de la concurrence déloyale.
Ah, c'est de la concurrence déloyale, entièrement. Mais ça ne devrait même pas exister. C'est de l'esclavage moderne, même, on peut dire. C'est de l'esclavage moderne. Mais de toute façon, quand vous voyez des entreprises, des fois, qui viennent vous présenter des entreprises intérim, là, des personnes, pour vous mettre des personnes à 13 euros de l'heure, vous croyez que c'est normal? C'est ce que ça nous coûte, nous, en France, une personne.
Et alors, pourquoi? Autre question, décidément, je suis en verbe de question. Jean-Luc, on vous comprend. Mais alors, pourquoi, ça vous avantagerait, pourquoi vous ne recourez pas à des travailleurs détachés?
Je suis pas un esclavagiste.
Donc c'est moral, moi, c'est une question de morale.
C'est une question de morale. Ils sont payés comme mes Français. Je vois pas pourquoi eux ils seront payés, mettons, 5 € de l'heure et mes Français sont payés 10 € de l'heure. L'avantage que j'ai, c'est si j'en veux 2, j'en ai 2. Si j'en veux 4, j'en ai 4. Ça se passe bien. Ils sont logés décemment. J'ai un local où ils ont une live box, la DSL. Ils ont mis une antenne pour capter leur pays. Ils sont logés 2 pour 24 mètres carrés. Voilà, exactement. Comme ça doit être, mais ça doit être comme ça normalement. Pourquoi c'est pas comme ça chez tout le monde?
Jean-Luc, c'est quoi du coup la solution? Est-ce qu'il faut faire signer une espèce de charte de bonne conduite? Là, c'est un message d'Albert qui m'envoie ça sur Direct Studio. Il me dit que ceux qui respectent pas, notamment les règles qui font appel aux travailleurs détachés, sont souvent des grands groupes du BTP plus que des petites entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous?
Moi, cette charte-là, moi, je travaille avec la grande distribution. Ils la font signer à tout le monde. Et j'en connais. Je veux pas faire d'histoire, mais j'en connais la charte et la signe, et puis c'est tout. Hein.
De toute façon, dans votre domaine, en l'occurrence, vous êtes exploitant agricole, vous êtes une exception, hein, parce que j'ai regardé rapidement tout à l'heure, depuis la mise en place de la directive sur les travailleurs détachés, le nombre de travailleurs étrangers dans l'agriculture française, travailleurs détachés, a augmenté de 1000%.
Bah, peut-être, mais moi, chez moi, vous pouvez venir voir quand vous voulez, je vous invite même à venir chez moi, vous avez mon adresse, et ben ils sont payés, etc., ouais, comme les Français.
Apparemment, vous êtes une exception.
Et c'est quoi la solution? Vous attendez quoi?
Excusez-moi, j'espère que je ne suis pas une exception à 100% quand même, parce que ça m'affole bon. Alors.
Jean-Luc, vous attendez quoi d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Bah, ben, qu'il fasse signer tous les pays, et bien sûr, il y aura qui ne voudront pas, hein, ouais. C'est davantage de recevoir les charges chez eux, ça leur fait rentrer de l'argent gratos, ouais. Hein. Et donc, qu'il fasse signer quelque chose ou qu'il interdise carrément ces travailleurs détachés qui disent ils sont sur le territoire français, ils doivent être payés comme un Français, vous devez payer vos charges en France. Pourquoi on a un déficit aussi énorme? Vous vous rendez compte le nombre de travailleurs qu'il y a détachés en France ou détachés ou étrangers si on ne paye pas nos charges en France? Vous vous rendez compte de l'argent qui manque dans les caisses?
Oui, mais c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est actuellement en Autriche et dans certains...
Ben, il a entièrement raison. Je ne veux pas défendre Macron, excusez-moi, je ne fais pas de politique, mais il a entièrement raison. On doit l'interdire à 100%. De toute façon, il y a des règles qui doivent se respecter. On doit payer nos travailleurs comme des Français. Mmh. Voilà, donc on n'a qu'à contrôler, plus contrôler.
Bon,
voilà.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé Jean-Luc au 3216. Manon.
Et puis on continue avec Daniel. Daniel, il est exploitant agricole aussi, voilà. Mais il nous appelle de Seine-et-Marne.
Il a le droit. Bonjour Daniel. Bienvenue sur RMC.
Bonjour à toute l'équipe déjà, pour commencer. Et puis je voudrais féliciter l'auditeur précédent.
Jean-Luc. Là,
Vous partagez son avis.
Je partage tout à fait son avis, hein, parce que comment déjà c'est très bien qu'il paye des personnes étrangères au prix de la France. Hein. Et le gros problème, comme il disait, de toute façon, aujourd'hui, malgré on a un taux de chômage très élevé, dans notre métier, on est incapable de trouver des personnes pour travailler. Le travail est trop dur. Le travail est trop dur. Les gens ne veulent plus travailler dans des métiers qui sont assez physiques de toute façon. Hein.
Mais ça, alors, Daniel, c'était une parenthèse parce que je crois que c'est pas le sujet dont vous voulez nous parler.
Non, c'est pas le sujet, mais je voulais féliciter l'auditeur. C'est très bien ce qu'il fait et je suis tout à fait de son avis.
Et donc vous voulez nous parler de quoi, Daniel, au départ?
Alors moi j'ai réagi, j'ai écouté la radio ce matin là et puis sur François Hollande. Parce que depuis quelques jours là, j'écoute pas beaucoup la radio ni la télé. Mais j'ai vu qu'il revenait un petit peu sur la scène politique.
Oui, mais il a encore dit hier qu'effectivement, il n'avait jamais dit qu'il se retirerait de la vie politique. Il était un petit peu en retrait, mais qu'il avait l'intention de continuer.
Moi je suis pas du tout de cet avis-là. Hein. On l'a eu 5 ans, quand on voit ce qu'il a fait de notre pays, hein, le chômage, la délinquance, tout ce qu'on veut. Pour moi, ça a toujours été un mauvais président. J'irais même un bon à rien, hein, de toute façon. Je le résume, j'étais voir le spectacle de Laurent Gérard. C'est un guignol, ça a été un guignol. Hein. Il n'y a qu'au moment des attentats qu'il a peut-être été à la hauteur. Mais sinon, pour moi, c'est... Alors aujourd'hui, il veut peut-être donner quelques leçons à notre nouveau président. Je ne le soutiens pas personnellement parce que je n'ai pas voté pour lui. Mais je n'ai rien contre lui parce que je pense que c'est une équipe nouvelle, c'est des jeunes et peut-être qu'ils pourront enfin nous apporter quelque chose, régler tous les problèmes qu'on a actuellement dans notre pays.
Donc selon vous, la petite embellie là qu'on connaît sur le plan économique actuel, et c'est absolument pas à mettre au crédit de François Hollande.
Ah non. Alors là, justement, il se glorifie un petit peu parce que le jour qu'il a quitté, j'ai regardé le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron, quand il a quitté l'Élysée, qu'il était rue Solferino, se féliciter de son bilan. Il y avait quelques personnes qui étaient là autour de lui, mais franchement, il avait pas honte. Hein. Quand on voit le bilan catastrophique à tout niveau, hein, je vous dis comment on est à la campagne, la délinquance, il n'y a jamais eu autant de délinquance, on ne fait rien du tout, comment... On arrête les gens, 2 jours après, ils sont sur la route. Nous, au niveau de l'agriculture, on était complètement délaissés. Hein. Aujourd'hui, on a combien de collègues qui se sont suicidés, hein, malheureusement. Hein. Il y a eu beaucoup de suicides. Hein. Tous les gens qui sont éleveurs, on les a mis vraiment à ras des pâquerettes. Hein. Ils n'ont plus de revenus. C'est des gens qui travaillent 60 heures par semaine, hein, 7 jours sur 7.
Je vais vous poser une question, Daniel. Vous n'avez pas voté pour lui, vous nous l'avez dit. Mais est-ce que vous allez donner sa chance à Emmanuel Macron? Est-ce que vous y croyez?
Alors, je suis pessimiste, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je suis pessimiste quand même. Hein. Je suis dans l'incertitude, mais bon, pour l'instant, il me déplaît pas. Je vous le dis carrément, hein, j'ai voté toute façon, qu'est-ce qui fait monter le Front National? C'est le socialisme. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé, de toute façon, les gens en ont marre. Hein. Ils se sont portés sur Marine Le Pen. C'est sûrement pas une référence. Hein. Mais bon, j'ai voté Front National, tout simplement, parce que j'en ai ras-le-bol, comme beaucoup de Français, malheureusement aujourd'hui.
En tout cas, on a compris que comme bon, un certain nombre d'électeurs du Front National, c'était pas un vote d'adhésion, mais un vote de colère. On a entendu votre colère. Merci Daniel de nous avoir appelé au 32-16.
Et puis Manon, pour clôturer un peu le sujet de ce petit retour de François Hollande, je voulais juste te lire ce petit message de Maximilien qui arrive sur l'application RMC via Direct Studio. La très légère embellie économique due à l'international, elle est conjoncturelle. François Hollande n'y est pour rien car il n'a fait aucune réforme structurelle dont la France avait vraiment besoin. Voilà, Maximilien qui est pas vraiment optimiste. Et puis on accueille Christophe. Christophe tout de suite il nous appelle du Var.
Oui, le plus beau département de France, on sait. Manon. Bonjour Christophe.
Bonjour, vous avez très bon goût, c'est vrai. Moi-même plus, je suis dans un endroit de rêve.
Lavandou, c'est ça, du côté du Lavandou?
Le Lavandou.
Ouais. Le Lavandou.
Moi, j'ai un coup de gueule à porter contre l'utilisation tout va de la carte bleue, quoi. Les gamins n'ont plus la valeur de l'argent avec ça.
Ah, c'est-à-dire, vous parlez de quoi? De la carte bancaire?
La carte bancaire,
oui, bien sûr, mais vous parlez de quoi? Des achats sur Internet?
Tous les achats en général. On va dans une grande surface. Mm-hmm. Si j'ai 100 euros dans la poche, je ne peux pas en dépenser 101, d'accord? Mm-hmm. J'ai une carte de crédit, je ne réfléchis pas. Je dépense. Et psychologiquement, qu'on le veuille ou non, on dépense sans compter avec la carte de crédit. Mmh. Les gamins n'ont plus la valeur de l'argent. S'ils ne connaissent que la carte de crédit, ils n'ont plus la valeur de l'argent. Mmh. Avant, un billet, ça vaut 5, ça vaut 10, ça vaut 100. La PSL vaut 2, celle-là, la vaut 4.
Vous avez vu que certains pays, je pense notamment à la Suède et au Danemark, sont en train de faire disparaître l'argent liquide. Le cash, là-bas, c'est plus que les cartes de paiement, hein, quasiment.
Oui, écoutez, moi, je sais pas comment ils font, mais moi, psychologiquement, les gamins, je trouve que c'est pas bon pour eux.
Et vous faites quoi? Enfin, vous avez peut-être des enfants, Christophe, vous faites quoi? Vous êtes encore à... On donne l'argent de poche? Comment ça marche?
Nous, quand elles en ont besoin, on leur donne, quoi. Voilà ce qu'il faut. Elles sont petites encore, elles sont pas grandes, hein, elles sont pas trop grandes. Mais ce que je veux dire, c'est que la valeur de l'argent pour quelqu'un, c'est savoir la valeur de l'argent. Quand on travaille, on gagne temps et tout. Leur expliquer combien vaut tout ça, c'est très important. S'il n'y a que les cartes de crédit, comment leur expliquer ce que vaut l'argent?
Christophe, je vous prends pas de haut parce qu'on a le même âge, vous avez 45 ans. Mais est-ce que vous croyez pas que c'est aussi une question de génération?
Question de génération? Oui, peut-être. Moi, je l'utilise, la carte de crédit, mais je trouve qu'on l'utilise trop. Je dis pas de pas l'utiliser, de l'utiliser à bon escient pour certains trucs qui sont pratiques, mais malgré tout, de conserver l'argent en espèce pour apprendre l'argent, ce que vaut l'argent aux gamins, quoi. Parce que si eux en face, ils font disparaître l'argent. Les gamins n'ont plus à valoir l'argent. Donc,
mais vous savez, enfin moi je me souviens quand j'avais 16 ans, voilà, j'avais envie d'une carte de crédit comme toutes mes copines, et donc il y avait des cartes qui étaient juste des cartes de débit, donc il fallait que j'aille au distributeur, j'avais le droit de retirer, je vous dis n'importe quoi, 30 euros par semaine par exemple. Après j'étais bloquée, et donc voilà, c'était une façon d'avoir une carte de crédit.
D'accord. Allier les deux. Conserver malgré tout l'argent en espèces pour montrer aux gamins ce qu'est la valeur de l'argent. Voilà, tout simplement.
Ah, merci de nous avoir appelé au 32-16.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Christophe. Et puis Manon, tu vois, il faut garder de l'argent liquide, toi qui n'en as jamais pour me payer le moindre café.
C'est vrai que j'ai pas beaucoup de monnaie pour payer, payer le café.
Jamais.
Tu vois, si la machine à café, bien, elle prenait ma carte de crédit, je t'offrirais des cafés tous les jours.
Je suis même pas sûr.
On termine, on accueille Kevin. Kevin, il a 31 ans.
Bonjour, Kevin.
Bonjour, tout le monde.
Alors, vous voulez nous parler de quoi?
De l'OM.
De l'OM, qui joue ce soir.
C'est ça.
Qui joue son avenir, sa qualification en Ligue Europa.
C'est ça, sa formalité européenne.
La formalité européenne?
Oui.
Voilà. Dites-moi pourquoi la formalité européenne?
Parce que je pense que ce soir, du coup, la qualification, elle va être, je pense, facile. Beaucoup plus facile que ça a été au match aller.
Ouais, match aller, un partout. Hein.
C'est ça, ouais, je pense que les joueurs de l'OM, comme je pense le public à la télé... Et tous les supporters, ils ont été surpris, en fait, je pense, par cette équipe qui avait les crocs.
Je me souviens plus du nom d'équipe, c'est une équipe slovène, c'est ça?
Donzal, c'est ça, ouais. Donzal. Et donc, ils ont été surpris, je pense, par la Ginta et l'énergie qui a été mise par cette équipe. Je pense qu'au match retour, ils sont avertis, et je pense surtout que l'équipe slovène, qui n'a pas l'habitude de jouer dans les grands stades et dans les matchs européens, va être un peu jambes coupées par l'empêche de l'autre.
Ce soir, il faut dire qu'il faut rappeler ce qu'il ne serait pas, que le match se joue au Vélodrome.
C'est ça, le match au Vélodrome ce soir, il y a eu un partout au match aller. Et il suffit juste soit de faire match nul 0-0 ou alors de gagner tout simplement.
Bon, vous y croyez en tout cas.
Je pense qu'après le match nul de dimanche et le match nul du match aller, je pense que là ils sont avertis et puis je pense que la direction, l'entraîneur et tout, toute l'équipe savent que c'est vital pour le club, pour le et pour l'avenir de l'OM de se qualifier en Coupe d'Europe. C'est que je dis la formalité européenne, parce que je pense que ce soir, ça va être facilement plié.
Bon, ben, on l'espère pour tous les supporters de l'OM. En tout cas, Vincent, je sais pas, tu crois, toi, de l'OM,
ah oui.
Tout ça?
Ah non, mais là, c'est jouable. Bien entendu, là, c'est jouable. Bien entendu.
Kevin me dit carrément que c'est une formalité ce soir.
Une formalité, ouais. Non, je crois que ce sera pas compliqué. C'est largement du niveau de l'OM, bien entendu. Et nous, on parlera aussi de rugby, de Mourad Boudjelal.
Bah oui.
La gueule, Mourad. Il est pas content. On va débattre. Un super moscato show.
Ouais, Mbappé, il est où, là? Il est dans l'avion, il en est où, là?
Mbappé.
Il est en équipe de France déjà.
Non, je ne peux pas vous le dire, Mbappé. Il va signer peut-être à Gaillac, il va signer.
Ah, mais c'est pour ça que ça prend du temps.
Un emploi à la mairie, on lui proposerait. Et des tickets resto. Ouais. Écoute-moi, on va parler de tout ça, cri de gueule sur Mbappé. Ce sera un auditeur qui le fera. On parlera bien entendu de l'OM avec des énormes chances de se qualifier. Et puis la cause de Mourad Boudjelal, oui. Oui, parce que il a l'impression qu'on en veut à son club. Donc on va en parler, c'est un super moscato show. Bien entendu, du Charvet, du Dimeco, du Dorian,
de la qualité.
Du Pouillet,
de la qualité.
D'Adrien Higouin, enfin, une pléthore d'effectifs.
A tout de suite, Vincent, le super moscato show sur RMC.